Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Est-ce que tout est beau?
Jean-François Lisée.
On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, Jean-François, selon la vérificatrice générale, c'est 27 milliards de dollars qui auraient été versés en trop par la PCU. Le gouvernement Trudeau remet en question les trouvailles de la vérificatrice générale en disant qu'ils ont exagéré. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, écoute, si c'était un programme normal, en temps normal, ce serait scandaleux. Mais un programme qui a été utilisé pour empêcher des dizaines de milliers de personnes et d'entreprises de sombrer pendant la première vague, la marge d'erreur doit être plus importante. Alors là, on sait qu'il y a à peu près 4 milliards de dollars qui a été vraiment perdu. Sur les 200 milliards, ça fait 2%. Bon, 2% de marge d'erreur, c'est correct. Là, il y a une possibilité que ce soit entre 10 et 15%. 10 et 15%, c'est beaucoup. Mais on n'a pas fini de récupérer ces sommes-là. Il y a une date de péremption. Il y a 36 mois après le paiement en trop où on peut récupérer la somme. La ministre Leboutillier dit qu'une partie de la somme est en train d'être récupérée. Donc, on va avoir, disons, l'an prochain, le résultat des courses. Alors, écoute, là, la question, c'est pas de savoir si ça a été versé en trop. Ça, je pense que c'est normal pendant la situation de crise. La question, c'est combien quelle portion de cette somme-là va être récupérée maintenant qu'on n'est pas en crise. Ce qui fait que je serais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sévère si c'était un programme régulier. Si c'était comme l'incapacité de livrer des passeports ou de gérer l'immigration, tu sais, des trucs comme ça, là. Ça, je serais très sévère. Mais dans ce cas-ci, je suis plus flexible sur la marge d'erreur qu'on doit accepter.
Mais Tom, étant donné que le gouvernement est tellement efficace, comme tu le dis souvent, j'imagine qu'on n'aura aucun problème à récupérer ces sommes.
C'est parce que Jean-François a fait une excellente analyse. C'est une situation sans précédent. Il y a 2 ans et demi, il y a une pandémie qui frappe, un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et littéralement, du jour au lendemain, il y a des millions de familles qui n'ont pas de gagne-pain. Puis Richard, c'est une triste réalité. Au Canada, on est une des places au monde où on économise le moins. La famille canadienne moyenne a 2 semaines de paye à la banque. Mais ça, c'est la moyenne. Parce qu'il y en a beaucoup qui vivent de carte de crédit en carte de crédit. Tu payes 300$ sur ta carte, ça bouffe 100$ d'intérêt parce que c'est des intérêts à 30%. Puis là, tout d'un coup, tu as 200$ à dépenser sur ta carte de crédit. Mais tu vas avoir des points, tout va être bon. Toute blague à part, le gouvernement était obligé d'agir très rapidement. La première mouture que Trudeau a sortie, en fait, que ses fonds ont sorti, ça n'avait pas de bon sens. Il y avait des barrières, des clôtures à sauter. C'était un jeu de labyrinthe. Et à leur grande mérite, Trudeau, sa garde rapprochée, on dit, on scrappe ça. Parce que ça, c'est le réflexe de tout bon fonctionnaire qui se respecte, un programme où tu ne perds pas plus que 0,1%. Hein? C'est ça, parce que tu dois faire très attention, c'est l'argent du public. Mais là, ils ont dit non, on va prendre un plus gros risque, puis le 2%, si bien décrit par Jean-François tantôt, c'est à peu près ça, c'est bien au-delà d'un programme normal, mais c'est 2% en temps de pandémie, puis c'était tout à fait acceptable dans les circonstances. Mais, pour rejoindre ta question, ce que Mme Hogan dit, OK, elle dit, le problème, c'est que le 4,6 milliards, là, pas le 27 qui est un peu hypothétique, pas encore validé, mais le 4,6, ça, c'est dur comme fer. Elle dit, ça, c'est de l'argent qui savent a été donné à des gens qui n'avaient pas le droit, puis ils ne vont pas le chercher. Ça, c'est de l'argent qui est par terre, puis ils ne le ramassent pas. Et ça va directement dans le tiroir que tu décris, de l'incompétence, de l'incurie.
Et tu as vu certainement la première page du Toronto Sun où on voit de l'argent en train de brûler. Là, on dit que le gouvernement brûle l'argent. Je vous trouve quand même gentil envers le gouvernement fédéral. Jean-François, un exemple. Un petit exemple. Okay?
Pauvre Richard.
J'ai une
ça commence
colère.
Mal la journée. Hein?
Non, mais j'ai une
colère. Complètement désarçonné là, ce matin, Richard.
Ben oui. Non, écoutez ça. Un exemple. J'ai une collègue ici, elle travaillait l'été dans un camp de jour. Le camp de jour est fermé à cause de la pandémie. Elle reçoit de la PCU. Elle agit à la fin de l'été, elle retourne aux études. Elle agit en bonne citoyenne. Elle appelle le gouvernement, puis elle dit « Je veux que vous arrêtiez de m'envoyer des chèques. Je retourne aux études, j'en ai plus besoin. » Et ils ont dit « T'es sûr que tu veux pas en recevoir encore? » En disant « Non, je veux pas. » Vous êtes sûr que vous voulez pas? Elle a dû se battre pour pas qu'on lui envoie des chèques de PCU. C'est un exemple.
Tu as raison. Mais le programme a été fait pour que le plus de gens possible puissent en recevoir. Et donc, les critères étaient assez faciles à satisfaire pour ne pas mettre des gens qui en ont besoin dans la situation où ils n'en auraient pas. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens, qui l'ont reçu qui n'en avaient pas vraiment besoin. Mais c'est la question du filet le plus large possible dans une situation de crise. Alors moi, je tolère ça à cause de la situation de crise. En situation de non-crise, évidemment, pareil, je donnais un exemple. Si en situation de non-crise, un gouvernement envoyait 600 $ à une famille qui fait 150 000 par année, ça, ce serait inacceptable. Tu comprends?
Voilà.
Et on va parler maintenant d'environnement. Très bon reportage du Devoir, Tom, en première page. Le Canada, leader de la déforestation. Encore le cordonnier mal chaussé.
Ben oui. Richard Desjardins bis, l'erreur boréale. Nous, on le sait. Mais on se pavane, on va dans ces trucs-là. Très bon discours, par ailleurs, de Legault hier. La seule chose que j'aurais ajouté, j'aurais fait un clin d'œil aux cousins français, parce que si Legault réussit ce qu'il dit, il y a tout lieu de croire qu'il c'est un homme déterminé pour ces trucs-là, il dit que 30% du territoire serait réservé d'une manière ou d'une autre pour la postérité, ben, le Québec fait un petit peu plus que trois fois plus grand que la France. En d'autres mots, ce qu'on est en train de réserver, c'est la taille de la France, le plus gros pays d'Europe. Ça vaut la peine de se péter les bretelles pour ça. Mais pour ce qui est de la déforestation, on n'a jamais pris ça au sérieux. On comprend que les puits de carbone que constituent nos forêts sont une denrée précieuse pour endiguer les changements climatiques. Trudeau, lors de l'élection de 2019, a fait une de ses promesses creuses dont il a vraiment le secret. Il a dit 1 milliard d'arbres. Ils n'en ont pas planté. Mais c'est pas grave. C'est une belle promesse en 2019, puis ça lui a permis quand même de sauver les meubles et garder un gouvernement minoritaire. Alors, le Canada est plein de schnoutes lorsqu'il s'agit de l'environnement. On a un gars qui a déjà été un précurseur, un gars très, très bien, Stephen Guilbeault, et il approuve au large de Terre-Neuve-Labrador un incroyable projet très dangereux dans des écosystèmes marins extrêmement sensibles, l'extraction du pétrole, puis il a le culot de dire que c'est net zéro. C'est carbone neutre parce que le bateau qui s'en vient le chercher, lui, il va être compensé. Mais le pétrole, lui, il va être brûlé quelque part sur la planète Terre. C'est pas carbone neutre quand on brûle du pétrole, même si ça vient du fond marin. Alors, le Canada est un bullshitter épouvantable dans ces dossiers-là. Et le monde commence à le voir. Alors, ce papier à la une du journal Le Devoir aujourd'hui, high five, hein, top là, parce que ça met les pendules un peu à l'heure.
Jean-François.
Écoute, moi, je suis ahuri par l'importance de ce qui est révélé ce matin. Il dit que, en fait, la déforestation produit 10% des GES du Canada, que c'est équivalent au sable bitumineux. Imagine que l'industrie forestière émet autant de GES que les sables bitumineux en Alberta. Mais c'est énorme, c'est énorme. Alors, écoute, c'est effectivement préoccupant parce qu'on nous dit de planter des arbres pour compenser les vols qu'on prend ou les autobus, etc. Puis pendant ce temps-là, l'industrie qui est censée planter autant d'arbres qu'elle en enlève ne le fait pas. Et ça, c'est notre responsabilité. Là. C'est pas l'Amazonie, c'est pas Bolsonaro, c'est ce qui se passe au Canada. Et compte tenu de l'ampleur de la forêt canadienne, ça a un impact sur la planète, le fait qu'on gère mal notre
forêt. Et là, Tom, même si on replantait des arbres, ça ne réglerait pas le problème parce qu'on dit que ce sont des forêts primaires, donc ce sont des arbres qui ne sont pas remplaçables. Donc,
c'est exactement ça. C'est ça. Littéralement irremplaçable. Et pour enchérir ce que Jean-François vient de dire, ça vaut la peine de noter que depuis l'accord de Paris, il y a une nouvelle catégorie d'informations que chaque pays doit fournir aux Nations Unies. C'est les changements d'occupation du sol, l'utilisation des sols, dont l'agriculture, mais aussi les arbres et les feux de forêt. Or, avec les feux de forêt qu'on a au Canada, toutes sortes de tentatives de compenser, d'endiguer, de réduire sont complètement dépassées parce que chaque fois qu'une forêt brûle, non seulement tu perds le puits de carbone, mais toute cette carbone-là est lâchée dans l'atmosphère. Et le Canada, à chaque année, il doit faire ça et c'est une catastrophe. Donc, encore une fois, on est en train de se raconter des écrières au Canada. Le Canada, crois-le ou non, c'est hallucinant. À l'international, le Canada a une très bonne réputation en environnement. Pourquoi? Ben, les ours polaires, ben, les grands espaces, ben, ça doit être bon. Mais dans les faits, on est une gang de pas bons en matière d'environnement, puis ça, c'est un exemple patent.
Jean-François, je veux revenir à ta chronique d'aujourd'hui dans Le Devoir, perdre les Nordiques, perdre un pays, parce que, bon, tu parles de cette série documentaire épatante, et je suis d'accord avec toi, Canadien-Nordique, la rivalité. Et là, on sait que en 95, la majorité des francophones au Québec ont voté pour le oui, sauf dans la région de Québec. Et on dit tout le temps, si le oui est perdu, c'est la faute des gens de Québec. Et là, la question, c'est que si on n'avait pas laissé partir les Nordiques, est-ce que peut-être que les gens de Québec auraient été encouragés à voter oui? Bon, c'est une question existentielle importante.
Ben oui, c'est important.
Ben
c'est
oui.
Pas juste dans Chaumédé là, qu'on a perdu, pas juste à cause de Tom Mulcair qui a fait une trop bonne campagne pour le non. Alors moi, je teste cette hypothèse-là et la réponse, c'est franchement non. Franchement non, ça n'a pas de rapport avec les Nordiques. Quoi qu'on en pense, puis c'est très très intuitif de penser que ben, les Nordiques, c'était la fierté, c'était la fleur de lys, puis si tu perds les Nordiques quelques mois avant le référendum, c'est sûr que ça va déprimer ton vote référendaire dans la région de Québec. Le fait est que la majorité des gens de Québec ont voté oui. Ils ont voté oui à 55% dans les 13 comtés de Québec, ce qui était le niveau qu'il fallait qu'on atteigne pour avoir 50% plus 1 dans tout le Québec. On avait regardé, ça c'est Jean Royer qui était chef de cabinet, avec les sondages de notre grand sondeur Michel Lepage, qui avait dit, bon, mais compte tenu du vote qu'on a enregistré pour le PQ, le Bloc, puis au moment du référendum sur Charlottetown, comment doit se répartir le oui sur le territoire pour qu'on arrive à passer la barre du 50? Bon, il y a 30 comtés extrêmement nationalistes, comme au Saguenay, où ça nous prend 60%. On les a eus. Les autres comtés, majorité francophone, hors Outaouais, ça prend 55. Dans la région de Québec, ils ont livré 55. Mais il y a 16 comtés à l'extérieur de la région de Québec qui n'ont pas donné leurs 55. Des comtés comme Bonaventure, comme Camille Lorrain, c'est-à-dire Bourget, qui était représenté par Camille Lorrain, et plusieurs autres, la Beauce en particulier, où là, il y a eu des majorités de non, au lieu d'avoir 55% de oui. Alors, c'est une légende que c'est Québec qui nous a fait perdre.
Ah oui.
Et la légende dans la légende, c'est que ben, c'est parce que les fonctionnaires de Québec ont voté non, parce qu'ils avaient peur des fonctionnaires fédéraux. C'est faux. Les fonctionnaires de Québec ont voté oui, exactement au même niveau que les fonctionnaires du reste du Québec.
De toute façon, Tom, on sait pourquoi le oui est perdu, c'est à cause des immigrants.
Mais non, il y a une formule consacrée, c'est l'argent et les votes ethniques. Ben ouais. Il faut quand même citer les choses dans l'ordre. Mais je vais te confesser quelque chose, j'avais travaillé à Québec pendant des années. Catherine et moi, on déménage la famille à Montréal en 83. Donc, printemps 84, je suis avec mes nouveaux voisins et amis du West Island. On est en train de regarder au mois d'avril les finales, les matchs entre Canadiens et Nordiques. Et voilà qu'un bon vendredi saint, on est tous ensemble en train de boire nos bières, manger nos chips et regarder le match. Et moi, je suis en train d'encourager les Nordiques parce que c'était mon équipe. J'arrivais de Québec. J'avais vécu le moment où ils étaient passés de la World Hockey Association, à la Ligue nationale, et voilà que j'appuyais toujours les Nordiques. En tout cas, les gars, là, j'ai jamais subi autant d'insultes, même avec Richard Martineau.
Parce que tu travailles avec moi. Oui, le démon. Jean-François, toi qui s'intéresses beaucoup à ce qui... Oui, veux continuer?
Il faut dire là à nos auditeurs que cette série canadienne-nordique, La rivalité, est d'une extraordinaire qualité. C'est bien monté, c'est intéressant. Chaque épisode est un petit bijou en soi. Il y a des rebondissements. On est très, très fâché contre Gary Bettman à la fin de la série. C'est vraiment le gars qui nous empêche d'avoir une vie nordique. C'est remarquable. C'est une des meilleures séries documentaires de l'histoire du documentaire québécois.
C'est vrai que c'est très passionnant. En terminant...
Et c'est nous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que le hockey puis Québec et Montréal?
Exact.
Aux États-Unis, ça va très mal pour Trump, la Trump Organization, finalement, qui n'a pas payé ses impôts. Et puis, c'était une élection très serrée en Géorgie. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
Ah, ben, je pense que... Moi, je suis content que les démocrates aient gagné compte tenu de la très, très mauvaise qualité du candidat républicain. Oui. Mais c'était très serré. C'était à 1% de différence entre les deux. Ça veut dire que si les républicains avaient eu un candidat normal, juste dans la moyenne de l'intelligence, il aurait pu gagner. Alors, merci à Trump d'avoir imposé un candidat imbuvable pour permettre aux démocrates de gagner sur le fil du rasoir et d'avoir une majorité d'un de plus au Sénat.
Ben oui, Herschel Walker, qui est ancien joueur de football, très bon joueur de football par ailleurs, mais disons que je trouve Jean-François plutôt gentil quand il dit qu'il n'était pas dans la moyenne, parce que c'est à peu près la chose la plus gentille. Écoute, sa vie personnelle est une catastrophe, dévoilée au grand jour tous les jours de la campagne. Son incapacité de s'exprimer, de comprendre quoi que ce soit, ce qu'il disait. Tu avais juste à l'écrire. Tu n'avais pas à le commenter. Tu avais juste à taper à la machine là ce qu'il venait de dire de jour en jour. Mais ce qui est le plus étonnant, et Richard, et on le voit encore une fois, c'est la division. C'est ce gars-là, avec tout ce qu'il représentait et tout ce qu'il avait comme faiblesse, est passé à un cheveu à devenir sénateur au Congrès américain. C'est hallucinant.
C'est totalement hallucinant, mais ça va pas très bien. Je pense que, ça m'étonnerait que les républicains décident d'avoir Trump comme candidat en 2024.
Pour traduire un peu une expression consacrée en anglais, Trump est en train de porter ça. Hein? He's wearing it. Oui. Trump a refusé pour la deuxième, pour l'éliminatoire, là, pour la deuxième ronde de cette élection-là, Trump a refusé de venir appuyer Herschel Walker, tandis que c'était son choix, son candidat. Il est à ce point-là faux cul, c'est que dès qu'il sent que c'est pas son gars qui va gagner, il s'en va se cacher en dessous de la table. Ça, c'est du pur Donald Trump.
Merci à vous deux. Merci, Salut. Tom. Merci, Jean-François. Oui, Jean-François.
Juste conclure, si Trump voulait faire exprès de perdre l'investiture républicaine, il ferait tout ce qu'il a fait ces deux derniers mois.
Merci à vous deux. Dit. Bonne Salut. Journée. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, écoutez son excellent balado auquel je suis abonné depuis un bon bout de temps. Il commente l'actualité et il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec humour. Allez sur laboîtealisée.com.